Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
Par la bande. Aujourd'hui, Milton Caniff. Milton Arthur Paul Caniff est né le 28 février 1907 à Hillsborough, dans l'Ohio, et il est décédé le 3 mai 1988 à New York. Son père, John William, est imprimeur du quotidien local. Cette situation a permis à Milton Caniff, enfant, de fréquenter les salles de rédaction et de se familiariser avec le milieu de la presse. Très jeune, il réalise des bandes dessinées, ce qui est somme toute assez banal. Ce qui l'est moins, sans être non plus exceptionnel, c'est qu'en 1922, il a alors 15 ans, un de ses récits est publié dans le journal du coin. Par la suite, il fera des études artistiques aux Beaux-Arts de l'Université de l'Ohio, dont il obtint le diplôme. Milton Caniff a été qualifié par nombre de critiques de Rembrandt de la bande dessinée. C'est sans doute un peu exagéré, mais c'est là une façon de dire qu'il était un virtuose d'une forme de clair-obscur, consistant à répartir sur la page des masses ou des taches noires pour donner corps aux formes. Cette technique, il la doit à son ami Noel Sickles, dessinateur qu'il rencontra en 1925 au Columbus Dispatch. Licenciés tous deux en 1931, suite à la crise, ils montent une agence artistique qui leur permet tout juste de subvenir à leurs besoins. Mais peu de temps après, Milton Caniff est embauché par la Associated Press. Et ce n'est que moins de deux ans plus tard, en 1933, que Sickles le rejoint. Pour ce journal, Sickles reprend le strip d'aviation Scorchy Smith de Johnny Terry, alors gravement malade. Dans un premier temps, il réalise cette série anonymement, imitant le trait raide de son prédécesseur et signant du nom de ce dernier. Puis John Terry meurt, et Sickles est alors autorisé à s'approprier la série. Il commence alors à expérimenter outils et effets dans le but de dessiner plus vite et pouvoir suivre le rythme soutenu d'un strip quotidien. Les résultats obtenus avec le clair-obscur, une technique qui définit l'image par opposition de zones sombres et de zones claires, l'encouragèrent à poursuivre dans cette voie. Caniff explique à ce propos. Il réussit à traduire cette approche, celle du clair-obscur, en se servant d'un pinceau côté obscur et en faisant intervenir le crayon et la plume côté clair. C'était rapide, mais aussi très efficace. Cette façon de faire, Caniff s'en emparera, il la développera et la systématisera, la faisant évoluer considérablement. Voici ce que Pierre Coupery dit à ce sujet. Venant couronner les expériences déjà tentées entre 1928 et 1935 par Roy Crane et Noel Sickles, Milton Caniff vit la possibilité d'un style original pour la bande dessinée quotidienne, un style adapté au noir et blanc, utilisant toutes ses ressources, et qui devait à son tour influencer les planches en couleur du dimanche. Il s'agit de bandes peintes à l'encre de Chine, bien plus que de bandes dessinées. Souvent, Milton Caniff divise l'image en larges zones noires et blanches sur lesquelles personnages et accessoires se découpent fortement, réservés en blanc sur noir ou rapportés en noir sur blanc. L'effet obtenu, très rigoureux, est volontairement plat et refuse souvent l'expression classique de l'espace. Ailleurs, Milton Caniff réussit dans sa technique une synthèse originale, unissant certaines virtuosités de pinceau oriental à une adaptation du clair-obscur classique, ramenée à ses contrastes essentiels de lumière et d'ombre. Plus tard, avec la série Steve Canyon, Milton Caniff s'est tourné vers une facture impressionniste où les formes sont fragmentées en taches et en éclats de lumière. Caniff n'est pas seulement un dessinateur d'exception, c'est aussi un conteur hors pair. C'est en 1933 qu'il crée Dickie Dar, sa première bande dessinée d'aventure, que l'on peut considérer comme le laboratoire de ses séries ultérieures. Au départ, il s'agit des récits des rêves éveillés d'un enfant, le jeune Dickie, s'imaginant vivre des aventures avec Robin des Bois, Arthur ou encore Long John Silver. En mai 34, Caniff réoriente ses exploits fantaisistes vers des aventures plus réalistes, en introduisant dans la série le personnage de Dynamite Dan Flynn. Avec l'autorisation des parents, ce dernier et le jeune garçon parcourent le monde. Leurs voyages commencèrent à bord d'un vapeur délabré partant pour Alger, où les attendaient des trafiquants d'or. Il ne s'agit donc plus, pour Dickie, de rêverie, mais d'aventure véritable. Ce Dickie Dar et son nouveau décor réaliste fut le prototype de ce qui sera la série la plus connue de Milton Caniff, Terry et les pirates. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.